RCF.
Bonjour et bienvenue dans Le Mag. On va démarrer cette semaine en très très bonne compagnie. On va vous donner des ailes, des envies d'ailleurs, des envies de voyage. Thème de notre émission, prendre la route en famille. Et oui, l'aventure est au cœur de cette heure que nous allons passer ensemble. Autour de cette table, des grands voyageurs à pied, à bicyclette ou en charrette à zébu. Ils ont sillonné le globe, enfants dans les bagages et vous le verrez, eux aussi sont surtout acteurs de ces épopées. Cindy Rella Lucas, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes l'heureuse Wonder maman d'une famille nombreuse, 8 enfants. Nous vous avions reçu en début d'année pour parler d'une autre de vos aventures, l'accueil dans votre foyer d'une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance. Elle s'appelle Julia. Vous faites d'ailleurs paraître dans quelques semaines un livre qui a pour titre « Restez avec vous pour toujours ». Vous nous en reparlerez. Mais revenons-en donc à nos voyages du Canada à la France. Vous avez, Cinderella, avec votre famille, parcouru l'Hexagone à vélo pour rejoindre Lourdes. Vous nous raconterez ce périple et aussi les projets en cours parce qu'il y a une récidive à venir. Vous en témoignerez. Également en studio, Cécile Toulonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une globe-trotteuse chevronnée, tout d'abord en couple avec de nombreuses destinations à votre actif, Népal, Mongolie, Équateur, mais aussi en famille avec vos deux enfants, notamment en Patagonie. Vous avez fait de vos voyages votre métier car vous êtes conférencière et auteure. L'aventure en autonomie au bout du monde, ça vous connaît et vous en témoignerez dans cette émission. Et enfin, nous accueillons en visio Alexandre Poussin, bonjour.
Bonjour.
Avec votre épouse Sonia, vous avez parcouru l'Afrique à pied 14 000 km, rien que ça. Fort de cette expérience, vous avez réitéré l'aventure avec vos deux enfants, cette fois en charrette à zébu, pour sillonner l'île de Madagascar. Une autre vie en famille, c'est un petit peu la punchline de Madatrek, c'est votre livre, mais aussi votre film. Voilà pour le tableau, il est dressé. Alors si vous avez envie de rêver, de voyager, d'avoir surtout de bons conseils, restez à l'écoute. C'est parti, vivons l'aventure sur les ondes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Le Mag de 11h à 12h avec Maria Goyer.
Alors on va commencer par le commencement. Première question, mais pourquoi cette envie de prendre la route en famille? C'est quoi le déclic, Cécile Toulonneau?
Le voyage en famille, pour nous, a simplement été une poursuite des voyages précédents que je faisais déjà avec mon mari. Voilà, dans la même veine, avec mon mari, on pratiquait déjà l'immersion dans des villages reculés du bout du monde. Premier pôle, et puis le deuxième pôle qui nous tient aussi à cœur, c'est le trek en haute montagne, en totale autonomie. Donc ça, on le faisait déjà tous les deux. On a souhaité attendre que nos enfants soient suffisamment grands pour le refaire avec eux. Donc, ils avaient 7 et 9 ans lors du premier voyage.
C'était l'âge que vous aviez un petit peu préétabli pour vous dire, ouais, à cet âge-là, c'est bon, ils sont capables?
Voilà, ils sont capables de le faire et on voulait aussi capables un petit peu d'observer et d'analyser et qu'on puisse échanger ensemble.
Ouais, que ce soit pas juste la grosse balade,
mais voilà,
des vrais, voilà, souvenirs. Je me tourne vers vous, Alexandre Poussin, en tant que grand voyageur en couple. C'était une évidence pour vous de partir à l'aventure cette fois avec vos deux enfants?
Oui, parce qu'ils font partie de la famille. On peut pas s'en priver si longtemps. Ça serait malheureux. Ouais, mais je voyage pas. Je conçois pas mes voyages comme des petites parenthèses de 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, effectivement, on peut partir sans les gens qu'on aime. Mais les voyages long cours tels qu'on les pratique, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut pas se priver de ceux qu'on aime pendant si longtemps. Donc, ils font partie de la vie. Et en fait, la vie évolue, la vie progresse. Et la dimension familiale, que ce soit d'abord en couple, puis ensuite avec les enfants, ça apporte de la profondeur, ça apporte de la lenteur, donc de la profondeur. Ça apporte du sens. Nous aussi, on est partis quand ils avaient 7 et 9 ans. Donc, vous voyez, on se retrouve sur les mêmes pistes et les mêmes chemins avec les mêmes motivations.
Cindy Rella Lucas, le voyage en famille, là avec 7 enfants, alors maintenant 9, hein, depuis quelques années, ça vous a pris comment, vous, en tant que déclic?
Notre premier voyage en vélo, puisque c'est notre mode de déplacement, à la fois qui invite à la lenteur et à la fois plus rapide quand même qu'une marche à pied. Nous pensions à nos enfants, justement. Nous, ça nous a pris il y a quelques années, sur un premier 300 km. Notre fils aîné devait être en sixième. Voilà. Et puis, nous sommes partis en Italie avec plusieurs familles. Nous sommes partis à Rome en pèlerinage des familles. Notre fille Philippine a été bénie par le Saint-Père. Et c'est un énorme cadeau. Et quand nous sommes rentrés en France, nous nous sommes dit que nous avions envie d'aller au-delà encore, de vivre une vraie aventure à la fois humaine, sportive et spirituelle, et nous a pris l'envie de descendre jusque Lourdes le long de la façade atlantique avec nos 7 enfants à l'époque.
Et alors, le delta, c'était quoi, le plus petit, le plus grand, avec quel âge?
Donc, Philippine avait 21 mois, notre aîné, Paul Hugo, avait 12 ans.
Est-ce que c'est un virus que vous avez envie aussi de transmettre à vos enfants? Alors, on va continuer le tour, hein, comme ça, pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais presque, Cécile Toulonneau. C'est un virus que vous avez envie de transmettre? Un bon virus, hein?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a surtout des valeurs. En ce qui nous concernait, puisqu'on fait de l'immersion, donc on est longtemps dans le même village avec les gens, c'était montrer à nos enfants des systèmes de vie totalement différents d'ici, ne pas juger les coutumes de vie d'autrui, qui sont parfois très différentes. Je pense par exemple au Népal, avec le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Ça, c'était une valeur importante pour nous. Oui, leur montrer une autre facette du monde, en fait. Voilà. Transmettre un virus, vous me posez la question. En fait, je me dis, on l'a sans doute fait. Sans doute. Mais c'est pas ça qu'on met en avant quand on décide de voyager avec ses enfants, en fait. Voilà. Ça se fait par la force des choses, forcément, mais c'est pas ça qu'on met en avant. Nous, notre motivation était vraiment celle-là.
C'est faire voir, montrer, faire découvrir.
Ouais. Des coutumes ultra différentes.
Donc vous partez de l'Anjou pour aller, alors on va prendre le Népal, ils réagissent comment vos enfants? Ils s'adaptent?
Ouais, on me le demande souvent en conférence, mais c'est peut-être pas un hasard, c'est des enfants qui ont toujours vécu avec l'adaptation. Je dis souvent, nous préparons ensemble nos voyages, c'est-à-dire que c'est pas papa et maman qui disent, voilà, on va aller pendant 6 mois Népal, Mongolie, point barre. Évidemment que c'est forcément, et je pense que les deux autres familles présentes vont dire la même chose, l'initiative à la base, elle vient quand même de nous. Nous, sur ce voyage-ci, l'Asie, c'était pas un hasard. On voulait trekker avec eux au Népal comme on avait fait en couple avant. Donc ça, c'était un rêve important. Après, une fois qu'on a balisé ça, ben voilà, on sort la carte du pays. Et voilà, toi, Anaël, on va être au Népal 3 mois. On vous propose ça. Et toi, en contrepartie d'un trek de 22 jours, ben, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et c'est comme ça qu'on...
Il y a un peu de négo.
Ben, un peu beaucoup. Puis plus les enfants grandissent, plus il y en a. Parce que Je me plais souvent à dire en conférence, on les enchaîne pas sur des voyages aussi longs. C'est impossible. Il faut vraiment que tout le monde soit partie prenante.
Il y a question aussi de la motivation.
Voilà. Mais quand on prépare ensemble, elle est là.
Voilà, on les chacun, motive en les impliquant.
Voilà. Et chacun, les adultes vont trouver quelque chose là où les enfants ne trouveront pas et vice-versa. Voilà.
C'est un peu du management, presque. C'est de la gestion d'hommes, en tout cas. Voilà. Les motiver en les impliquant. Pour vous aussi, Cinderella, c'était important de... Vous plantez la carte comme ça et vous leur dites...
Exactement.
Et toi, tu vas aller où? Ah oui?
Mais exactement. Les envies de voyage, alors bien sûr que les parents initient des choses, proposent des choses, mais ce sont les enfants qui guident, en tout cas chez nous. Ce sont nos enfants qui nous guident. Effectivement, la carte, elle est prise, elle est posée sur la table. Vous avez une tribu de nains qui se met autour et qui montre du doigt là où ils souhaitent aller. Nous voulions traverser la France, mais nous voulions une destination qui ait du sens pour nous. Après, le Vatican, Lourdes, c'était cohérent pour nous. Maintenant, l'idée, c'était de savoir par où on y allait. Et ce sont les enfants qui nous ont dit « Mais nous, on veut surtout pas y aller en voiture. Vous rigolez, il y a aucun sens à ça, c'est pas drôle. » Ok, ben on y va à ce moment-là. Ce sont eux qui nous guident dans ces projets. Ce ne sont pas nous qui les enchaînons, comme dit Cécile. Ce sont eux qui nous guident. Ce sont eux qui nous demandent, depuis qu'ils sont petits, ils nous demandent à partir.
Un beau témoignage. On se tourne vers vous, alors toujours en visio, Alexandre Poussin. Je rappelle, vous êtes grand voyageur en couple, en famille. Les enfants, ils vous ont guidé aussi quand vous avez fait cette découverte de l'île de Madagascar?
Non, en fait, ce sont les zébus qui nous ont guidés. C'est ceux qui tiraient la charrette, donc c'est ceux qui étaient devant. Et en fait, on suivait, nous. Il y a très peu de pistes. On a dû faire la route. Donc, parfois, c'était à la machette. Il a fallu traverser des fleurs. C'était assez rocambolesque. Mais ça suscitait énormément de rencontres et d'inculturations. Comme disait Cécile, nous aussi, on restait dans les villages. Et c'est ce qui nous intéressait, comprendre cette culture de l'intérieur, culture qui souffre, pays qui souffre, un des pays les plus pauvres du monde, alors qu'il y a beaucoup de richesses. Et c'était cette énigme-là qu'on voulait lever en faisant notre métier de journaliste, d'enquêteur, de documentariste. Nous aussi, nous sommes conférenciers. J'adore vos deux invités, là, Cécile et
alors, on l'a bien trouvé, hein, bonne pioche.
Je me reconnais totalement en elle. Et j'ai les mêmes motivations. Je suis parti à bicyclette. J'ai commencé, moi aussi, par un tour du monde à bicyclette. J'avais 22 ans.
Avec Sylvain Tesson, c'est ça?
Voilà. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'Himalaya. Donc, je reconnais aussi la passion des montagnes et des treks en autonomie, puisqu'on a traversé tout l'Himalaya. On a fait 5000 kilomètres en 6 mois dans un long trek dans l'Himalaya. Donc, voilà. On fait partie de la même famille. Alors, les enfants ne nous guident pas, mais effectivement, on discute de tout, puisqu'ils sont, ils ont une part très prenante dans notre histoire, puisqu'ils alimentent les sujets, ils documentent les sujets. Tout ce qu'on a filmé, c'était leurs humanités. Ils ont fait l'école pendant 4 ans, dans la charrette à Madagascar, en apprenant plein de choses. Toutes les ressources du pays, les caméléons, l'endémisme incroyable, la déforestation, tous les problèmes, la surpopulation, la malnutrition. Ils ont participé à des missions médicales. Donc, on voulait que notre voyage soit utile et actif.
En tout cas, ça a l'air d'être réussi. Comment on continue? Comment on motive ces enfants? Alors, ok, on le voit sur le papier, en préparant, on sort la carte, on va voir ci, on va voir ça. Mais quand on tape dans le dur et qu'on est vraiment en face de ses propres limites, des limites de ses enfants, on invente quoi comme excuse, comme carotte pour les faire avancer? Je pense à vous, Cinderella Lucas, 7 enfants à vélo, traverser la France, on dit allez, on s'arrête dans une heure, c'est quoi les...
Non, il n'y a pas de carotte. Il n'y a pas de carotte chez nous, on met du sens. On met du sens. Lorsque nous sommes partis pour notre premier 1000 kilomètres il y a 2 ans, nous avions décidé d'offrir nos kilomètres à Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est-à-dire que l'ensemble de nos kilomètres cumulés permettait de reverser, de solliciter en fait des dons pour permettre l'opération d'un enfant cardiaque à terme. Donc pour nous, ça me venait vraiment mettre du sens parce que des coups durs, il y en a eu. Arrivé dans le sud de la France, c'est plus vraiment très très plat. ça devient rendu. Les 3 derniers jours, après 15 jours de vélo, ça pique vraiment. C'est dur. Nous aussi, on a eu des coups durs et on mettait ce sens. Et puis on mettait ce sens aussi parce qu'il y avait autour de nous une communauté autour de notre blog qui nous permettait de partager un peu comme notre journal de bord. Chaque soir, notre vécu
ligne.
Exactement. Voilà. Notre vécu non édulcoré de la réalité. C'est-à-dire que, voilà, hein, c'était pas tout rose. Et on recevait de nombreux témoignages, mais en général tous humains, en fait. Et ces témoignages de ces personnes nous portaient, en fait, et mettaient du sens. Et pour nous, on pouvait pas partir en disant à nos enfants, il faut que tu avances parce que dans une heure où ça arrête, ou c'était pas le sens.
Tant un coca et...
Non, du tout. Non, on est dans le mettre du sens, grandir, s'encourager, des valeurs, c'est ce que disait Cécile. Mettre des valeurs, des rencontres.
Cécile aussi, des témoignages des situations où vous pouvez nous raconter comment vous motiviez vos enfants. Alors là, en autonomie, au fin fond du bout du monde.
Oui, alors...
Sans porteur.
Compléter ce que dit Cinderella et Alexandre, il y a un côté tribal, je pense, chez nous, qui est relativement important. C'est-à-dire, dans une tribu, tout le monde est pas mal à la fois en même temps et tout le monde n'est pas très bien en même temps. C'est-à-dire que les uns qui vont très bien peuvent remonter le moral des autres. Je dis toujours, on est en tribu, en famille, la même chose que ce qu'on est en France, mais c'est accru par les difficultés du voyage, les conditions qui, pour nous, sont souvent très précaires, puisqu'on est dans des villages reculés. Et donc, voilà, nous, on a toujours fonctionné comme ça. Eh bien, elle avait un rhume aujourd'hui, elle a mal dormi cette nuit. Ben voilà, hop, les autres, on va la regonfler un peu, on va leur donner le punch que nous, on a aujourd'hui, qu'on n'aura peut-être pas demain, etc.
Ça circule, quoi.
Voilà, alors ça, c'est pour le premier aspect. Le deuxième aspect, mon mari est un homme avec beaucoup de self-control, qui arrive à dire, à piloter une tribu sur l'aspect technique, puisque nous, on fait de la rando en totale autonomie, sans agence, avec nos toiles de tente dans des endroits un peu reculés. Et on a effectivement eu des moments où il fallait que la tribu soit bien soudée pour avancer, dont ce petit trek en Patagonie.
Ce petit trek, j'aime bien. Non, mais il ne faut pas minimiser.
Voilà, hein, c'est un peu une boutade. Ce petit trek en Patagonie que nous n'avions pas prévu qu'il se terminerait avec 20 cm de neige, avec nos toiles de tente. Voilà.
Okay. Une petite anecdote au passage,
bah, c'est celle-ci.
Vous avez fait comment?
Ben voilà, mon mari qui est un bon chef de tribu, déjà d'ordinaire, mais particulièrement dans les moments durs, il a pris les choses les unes après les autres. Et puis, on a quitté le sentier qu'on voyait plus qu'il y avait la neige. Alors, je précise, c'est Patagonie, c'est la dernière île chilienne, Isla Navarino, dernière île chilienne habitée avant le Cap Horn. Il y avait un sentier, mais qu'on avait déjà perdu depuis quelques heures, un semi-sentier. C'était normalement un itinéraire de 4 jours, 4 jours et demi. Il nous a fallu presque 6 jours. Et donc, quand on a vu qu'il y avait de la neige, 20 cm, qu'on n'avait pas forcément tout l'équipement adapté, oui, puisqu'on n'avait pas prévu, puisque c'était censé être l'été Patagon, mais en Patagonie, il n'y a pas vraiment de saison. On a juste quitté le sentier qu'on ne voyait plus, oui, pour baisser d'altitude et retrouver une piste. On savait qu'au nord, on avait une piste qu'on retrouverait à un moment ou à un autre. C'est ce qui est arrivé, voilà. Et donc là, voilà, à des moments comme ça, bah, y a quelqu'un qui prend les rênes. Moi, j'ai un mari qui sait très bien faire ça.
Est-ce qu'il y a des moments où on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?»
Oui, sur ce moment.
Je pensais à ça en pensant à vous.
Je pense que Alexandre ou Cinderella auront d'autres choses à raconter, mais à ce moment-là, et même si vous aviez mes enfants à côté de moi, il en parlerait. Il parle de ce périple-là, et c'est toujours ce trek-là qui revient, parce que là, on a fait beaucoup de trek avec mon mari, mais c'est la première fois qu'on avait un peu peur pour notre tribu. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré l'espace d'une journée, mais
un petit risque. Oui.
Voilà.
On y reviendra sur les risques et les peurs qu'on peut avoir quand on voyage avec ses enfants. Cinderella, Lucas, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Cécile?
Oui, l'aspect tribal dont parle Cécile, je le trouve très, très, très parlant, très, très signifiant. Nous avions eu aussi des moments comme ça, un peu épiques, 3 jours et 3 nuits de pluie et d'orage, non-stop. Machine à laver, sans essorage, sans séchage, sans voilà, c'est un bouillon. 3 jours, 3 nuits d'orage, de trombe d'eau, on se réveillait trempé, on se couchait trempé, et te dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce
mais
qu'on fait là? On pourrait être juste sur une serviette de bain en bord de plage à se faire griller le dos. Non, nous choisissons de partir à l'aventure, et dans ces moments-là, oui, ça prend.
Oui, avec les bébés, avec.
Oui, c'est ça. C'est ça, et cet aspect tribal, il est puissant. C'est ça, on n'est pas tous mal au même moment, en fait. Dans une famille de 4, dans une famille de 9 ou de 11, on n'est jamais tous mal au même moment. Donc cette force-là, on la trouve dans nos familles, en fait. Dans chacun de nous, mais dans nos familles. C'est ce qui nous porte, en fait.
Merci Cinderella Lucas. On va marquer une très courte pause en musique. Restez avec nous, Cécile Toulonneau, Alexandre Poussin, Cinderella. On va donc écouter Polo & Pan, La Canopée. Je suis sympa, je vous ai épargné Voyage de Desireless. Là, on va quand même voyager avec quelques notes de musique et cette canopée sur RCF Anjou. On se retrouve juste après ça.
Les oiseaux
Regard sur les questions de société avec Maria Goyer.
C'est la suite de notre émission sur RCF Anjou. Nous recevons des aventuriers, des vrais de vrais, des voyageurs, des globetrotters, que ce soit aux confins de la Patagonie ou sur les plages de Madagascar, mais aussi à vélo à travers la France. Tous ont fait le choix d'embarquer leurs enfants dans leur périple, à leur folie, inconscience ou à leur véritable cadeau éducatif. La réponse, c'est avec nos invités. Je vais me tourner vers vous, Cécile Toulonneau. Est-ce qu'on vous a pris pour des fous et des fous furieux quand vous avez annoncé vos projets de partir, voilà, en Patagonie et en autonomie avec vos enfants?
Oui. À chaque fois. Et je pense que mes collègues sur le plateau diront la même chose. Mais c'est peut-être un peu la marque des aventuriers, voyageurs, etc. C'est qu'on ose aller jusqu'au bout de nos rêves, là où des gens ne vont pas jusqu'au bout. Et on offre aux gens aussi une part de rêve. Voilà, ce que je disais en aparté, c'est que dans notre communauté des voyageurs... au sens large, ou même conférencier, etc. Quand on a décidé d'un projet, on va jusqu'au bout.
Quels que soient les freins qu'on peut avoir. Moi, je me pose la question aussi des moyens. Ça coûte des sous de partir 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. On fait comment, concrètement?
Alors moi, jusqu'à...
On bosse pas, a priori, quand on est en voyage.
D'une autre manière. Jusqu'à 2013, c'était le fruit de nos économies. Puis depuis 2013, c'est le fruit de mon travail, puisque je suis devenue conférencière à temps plein.
Oui, donc en fait, vous avez fait de votre passion votre métier.
Voilà.
Cinderella Lucas, on vous prend pour des fous, là, quand vous annoncez votre prochain 1000 km. Alors, on n'a pas parlé du Canada que vous avez fait aussi.
Oui. Alors, le Canada est venu, nous sommes effectivement partis, nous avions à l'époque 7 enfants, nous sommes partis dans le Grand Nord canadien, retrouver des amis canadiens, aventuriers eux aussi, qui nous avaient préparé un périple de 15 jours dans le Grand Nord canadien, à 2 heures de route des premières maisons, premiers commerces. Nous étions partis nous isoler par moins 40 degrés, vivre une expérience. Alors, sur un court terme, contrairement à Cécile et Alexandre, nous avons nos activités professionnelles qui, pour le moment... Nous tenons à les conserver, donc nous voyageons plutôt sur un court terme. En revanche, l'aventure, les départs, les voyages sont pour nous essentiels aussi dans la façon dont on choisit de faire grandir nos enfants. Quand nous sommes partis au Canada, effectivement, certains se sont posé des questions. Il faisait extrêmement froid, nous étions très isolés, et cependant pas du tout inquiets. Je crois que alors le Canada, ça a été quelque chose. Les 1000 km à vélo avec 7 enfants et cet été avec 9, entre moins de 2 ans et 16 ans maintenant, des enfants tous les 2 ans. Le plus jeune qui pédale à 6 ans enfile ses 1000 km sans problème. Oui, on nous prend pour des fous. Mais le sommes-nous vraiment? J'en suis pas convaincue. Finalement... on pourrait se poser la question, c'est quoi la folie en fait, de s'empêcher d'accéder à des choses qui finalement, les seuls freins que nous avons sont ceux que l'on peut se poser.
Qu'on se met.
Et le choix pour nous de voyager à vélo, c'est aussi de témoigner, de partager au monde que le voyage, il n'est pas forcément au bout du monde, il peut aussi se vivre en France, de façon réduite au niveau des frais, parce que là, en l'occurrence, on ne prend pas l'avion, de le vivre en simplicité, en partant avec à la fois rien et à la fois, ben, finalement, l'essentiel, et de vivre une aventure pleine et entière en famille, accessible à tous. Oui, les gens nous prennent pour des fous. Bien sûr, on se fait arrêter sur la route. Des gens qui nous disent qu'on est absolument malade de faire rouler nos enfants, que nous sommes inconscients, que c'est
assassin.
Dangereux. Presque. c'est terrible de voir cette rigidité. Et je crois peut-être cette jalousie nous fait de la peine pour eux, en fait, de voir ces gens qui semblent souffrir de ne pas s'autoriser, de tout lâcher et partir. Partir avec une toile de tente, avec deux slips, deux t-shirts par personne, rien, de la nourriture au jour le jour. Et si on mange du pain et du miel, où est le problème, en fait?
Ouais, on va y arriver,
on est
va
heureux,
s'en sortir.
On est bien, tout va bien, en fait.
Alexandre Poussin, est-ce qu'on vous prend pour des fous aussi, ou on vous a pris, hein, quand vous avez fait le choix de partir, voilà, découvrir Madagascar avec vos enfants, avec deux zébus, voilà, plus d'école, plus rien?
Pas trop, moi, parce que ça fait 20 ans que je dresse mon entourage.
Vous êtes déjà fou depuis longtemps.
Voilà, 30 ans même, 30 ans. Donc non, là, il disait que what's next, quelle va être son idée saugrenue. Et en fait, vos deux voyageuses ont aussi répondu de façon admirable. On fait les choses comme un pommier fait des pommes, quoi. C'est dans notre nature. Vous savez, plus je rencontre de gens, et effectivement les gens viennent me voir dire: ah, moi aussi j'avais ces rêves, j'aurais dû. Finalement, il y a deux catégories de personnes: il y a ceux qui trouvent des excuses et ceux qui trouvent des moyens. Et en fait, les moyens, c'est pas tellement de l'argent, parce que Cinderella l'a dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Quand j'ai fait le tour du monde à bicyclette avec Sylvain, on avait une bourse de 1 500 euros, on a vécu un an avec, sans compter les deux billets d'avion qu'il a fallu pour traverser les deux océans. Mais on a besoin de non-moyens, et c'est là qu'on paye. On paye cher. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est les épreuves, c'est le sacrifice, c'est le manque, ne pas aller à l'hôtel, ne pas prendre de transport, ben ça se traduit par moins de dépenses, mais plus de souffrance aussi. Et les enfants apprennent le sens de l'effort, ils apprennent la privation, ils apprennent à ne pas avoir de caprices, et que la pluie, ça mouille, que le froid, ben c'est froid, qu'il faut se protéger, qu'il faut se préparer. On apprend tout ça au scoutisme, en fait. C'est une extraordinaire école de la vie, le scoutisme. Alors, pour les enfants qui ont des parents voyageurs, c'est extraordinaire, ils peuvent appeler le scoutisme. Mais moi, c'est un peu là que j'avais appris tout ça. La résilience, qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est la capacité à surmonter les difficultés, à les voir dans un autre avec un autre regard. On vit en tant que voyageur la sobriété volontaire qui rend heureux, à se priver de toutes ces choses superflues qui nous rendent malheureux. Nous, on n'a pas d'emprunt, sauf l'emprunt immobilier, mais on vit pas à crédit, on n'achète rien à crédit. On n'est pas des très bons consommateurs, hein. On est des bons épargnants, mais pas des bons consommateurs, parce que justement, on part avec nos économies, parce que on n'a pas de salaire, on n'a pas de lien, on a des revenus. Des droits d'auteur, des droits de nos films, de conférences aussi. Alors en ce moment, c'est un peu les vaches maigres. C'est dramatique, ce Covid. On avait 100 conférences de prévues à travers toute la France, une grande tournée avec Connaissance du Monde. Tout ça a été reporté. Et bon, ça nous manque. Alors on écrit. Là, je suis à l'écriture de notre tome 2, où je raconte et je relate toutes ces aventures.
Ça, c'était pour le grain de folie d'Alexandre Poussin. Merci beaucoup. On continue de parler de prendre la route en famille avec ses enfants. Alors oui, il faut les déscolariser. Oui, parfois on peut être sujet à certaines jalousies de gens qui vivent aussi avec ces regrets. Toutefois, on va revenir à quelque chose de très pratico-pratique. Est-ce que parfois on a peur pour ses enfants, parce que tout à l'heure on se disait mais qu'est-ce que je fais là? Parfois ça peut arriver, mais pourquoi j'ai embarqué mes enfants là-dedans? Et est-ce qu'il n'y a pas un réel danger pour eux? Cinderella, vous avez traversé la France à vélo avec vos 7 nains, c'est comme ça que vous les appelez aussi, hein.
Oui.
Je me serais pas permise. pour aller jusqu'à Lourdes, voilà, la galère, le froid, la pluie, il y a des moments aussi, il y a des mises en danger où on se dit mince, je suis peut-être allée trop loin.
La mise en danger, elle vient de la perception que nous avons du danger. Alexandre parlait de résilience, et je trouve que c'est très juste, en fait. La mise en danger, c'est celle que nous repérons, en fait. C'est quoi le danger, finalement? À notre sens, il y a des situations qui effectivement nous demandent de nous adapter. La peur, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de repérer une situation qui nous demande de nous adapter. Qu'est-ce que le danger ? Il est ce que l'on en fait à notre sens. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à cette situation ? Effectivement, quand on est trempé depuis 3 jours, 3 nuits, qu'il y a des orages terribles, comment est-ce qu'on s'adapte à cette situation ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la vit ? Et c'est ça qui nous fait grandir. On se rend compte aussi que à partir avec rien, Alexandre en parlait très bien aussi, nous partons juste avec 10 litres, enfin des sacoches de 10 litres par personne. C'est rien, nous partons avec le minimum vital, une toile de tente, on partira avec 2 l'été prochain parce que les enfants ont grandi, ils ne sont plus très nains.
Vous serez 11.
Et nous sommes 11, voilà, c'est ça. En revanche... On part avec à la fois rien, mais avec, à la fois avec l'essentiel, en fait. De quoi se vêtir, de quoi se nourrir au jour le jour, et demain, on verra bien de quoi ça sera fait. Apprendre à vivre avec l'essentiel, avec ce qui... Oui, juste avec l'essentiel. C'est tellement bon de quitter le superflu. Ça fait partie des valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants au-delà d'un virus. ils sont capables, nos enfants, nous aimons les faire voyager, en avion quand nous sommes partis au Canada, en avion quand nous sommes partis à Rome, dans des hôtels. Et pour autant, on se rend compte que les meilleurs souvenirs, les meilleurs temps familiaux qu'ils gardent quand on échange, ce sont ces moments où nous n'avions quasiment rien, où nous sommes partis avec rien, et pour rien au monde, même notre grand de 16 ans ne manquerait notre prochain départ en vélo.
Mais changerait un week-end dans un hôtel de luxe avec ses souvenirs et ses galères.
Mais bien sûr, parce que c'est une force, parce que ça fait grandir, parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre dans ces moments de s'accueillir à la fois avec toute notre humilité et notre pauvreté, et à la fois toutes nos ressources et nos recherches, nos richesses personnelles et nos richesses familiales.
On se découvre.
Nos richesses de tribu, comme vous disiez, Cécile, mais c'est tellement ça. Et nous, notre tribu, elle est grande en plus, donc des richesses et des forces et des galères et des mauvaises humeurs. On en a aussi plein.
Cécile de Toulourneau, voilà, il y a un moment où vous étiez en trek en Patagonie, vous voyez qu'il y a de la neige, c'était pas prévu, vous commencez à avoir froid, avoir un petit peu peur, voilà, c'est dire qu'est-ce que je fais là? Vous dites on est vraiment dingo et on a mis en danger nos enfants? Ou non, malgré le sang-froid de votre mari et de...
Non, on n'a pas mis en danger nos enfants, mais on aurait préféré être dans des conditions un peu plus soft à ce moment-là, voilà. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Cinderella, en haut de l'échelle des souvenirs, ce sont ceux-là qui reviennent en premier, parce que c'est les plus extraordinaires qu'on n'aurait pas imaginés, c'est de ceux-là dont se souviennent aujourd'hui nos grands-enfants.
On n'a pas peur non plus des maladies, je sais pas, tropicales ou des cassures de jambes ou de la santé finalement pour ces petits alors qu'ils aient 2 ans, 7 ans, 9 ans ou plus. Quand on voyage, je sais pas, Alexandre Poussin, vous avez pas eu des gros pépins de santé avec vos enfants?
On voyage dans les pays, là à Madagascar, quand on est loin. Hein. Il y a un phénomène exponentiel quand on est à 2 jours d'un hôpital. En fait, on est à 5 jours de l'hôpital parce que si on a une jambe cassée, il faut 2 jours pour revenir. Et plus on marche, plus on s'éloigne, en fait. Ça s'appelle l'engagement. Il y a la même chose en paroi, en escalade. Quand on est à 20 mètres du sol, on est à 20 mètres. Mais quand on est à 300 mètres, on est beaucoup plus loin que 300 mètres. Parce que pour redescendre, si on se fait mal, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Il faut sortir. On est obligé de sortir par le haut, la plupart du temps, quand on se baisse en paroi. Donc, il y a cette notion d'engagement. Et dans les régions enclavées, isolées où on était, il y a aussi beaucoup d'insécurité. Il y a des bandits. Il y a des dahals qui sont des bandits à Madagascar qui volent les zébus. Et il se trouvait qu'on était les seuls touristes de l'histoire du pays à avoir des zébus. Les autres, ils ont des voitures, des moteurs. Enfin, ils vont en taxi-brousse. Ils se débrouillent dans les moyens mécaniques ou à bicyclette aussi, mais jamais avec des zébus. Enfin, c'était une première. Et là, donc, on devenait des proies. Et effectivement, se voir embarquer dans une embuscade, on en a eu 3. Avec des types en armes qui sont drogués, défoncés avec le hashish parce qu'ils veulent se donner du courage. Et il faut commencer à discuter avec ces gens-là dans une langue qu'on maîtrise mal, ne pas montrer sa peur, avoir le sourire, essayer de les faire rire, expliquer ce que l'on fait. Bon, il faut du sang-froid, il faut y être préparé, mais c'est pas rigolo. Et alors, évidemment, on a des scrupules, on se dit, est-ce que je mets pas ma vie de mes enfants en danger de façon
proactive, oui, oui.
Voilà. Bon, en France, quand on prend sa voiture et qu'on va dans les embouteillages, voilà, les enfants, ça meurt aussi d'accidents, ça tombe des arbres. Les voyageurs n'ont pas le monopole des drames. Il se trouve qu'en 4 ans, on n'en a pas eu. Mais effectivement, c'est l'épée de Damoclès qui est tout en dessous de nos têtes. On ne veut pas que les enfants attrapent de maladies. Quand vous voyez la liste de ce que vous pouvez attraper à Madagascar, c'est épais comme un dictionnaire. Et le Vidal n'y suffit pas pour trouver les médicaments. C'est des maladies du Moyen-Âge. Il y a tout à Madagascar en permanence. Il y a la lèpre, il y a la peste, il y a le choléra, il y a le typhus, il y a la typhoïde, il y a des vers, il y a des parasites. Alors ça, on en a eu. Il y a les amibes, évidemment. Alors les enfants marchaient pieds nus. Ils ont marché 5000 km pieds nus. Il n'y avait pas moyen de leur faire mettre des chaussures. On a abandonné ce combat au bout d'un mois, quoi. Ça, mets tes chaussures. Non, mets tes chaussures. Non. Ils ont marché, c'est des petits vins du pied. Et alors, quand ils se blessaient, évidemment, ils marchaient sur des pierres coupantes, des épines, des branches. On dit, bah, tu assumes. Alors, ils partaient en clopinant comme ça. On les soignait. Alors, ils avaient la charrette pour se réfugier, évidemment. Et ils ont attrapé des paras, c'est ce qui s'appelle des puchiques, qui pondent sous les ongles. Et après, il faut curer ça. Il y a des œufs qui sortent. C'est un peu dégueulasse. Mais bon, c'était aussi le prix à payer. Mais aujourd'hui, quand on en parle, ça fait des bons souvenirs.
Ça les fait marrer, oui. On continue de parler de voyage en famille sur RCF Anjou. On va marquer une très courte pause. On se retrouve juste après pour parler des fruits et aussi des beaux souvenirs et de ce qu'on transmet à ses enfants quand on leur partage ces aventures.
RCF. RCF Anjou, Thomas Cochebray.
Ce mardi 27 avril à 18h40, je recevrai dans cette seconde émission Face aux Angevins, Hélène Krupeninck, adjointe au maire d'Angers, en charge de l'environnement et des espaces verts. Vous pouvez déjà lui poser vos questions en écrivant dès maintenant à rcfanjou@rcf.fr ou bien en nous appelant au 02 41 87 98 98. Nous prendrons note de vos questions, elles seront relayées à l'antenne. Face aux Angevins, c'est donc ce mardi 27 avril à partir de 18h40 avec Hélène Krupeninck sur RCF Anjou.
Un expert, des témoins, des conseils pratiques, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer.
Alors partir avec ses enfants, grand voyage, une aventure à part entière, un cadeau pour leur vie présente mais aussi future. Concrètement, quels sont les fruits? On va en parler avec nos invités, nos témoins, Cécile Toulonneau qui est partie en famille en Patagonie et en autonomie, Cinderella Lucas qui a traversé la France à vélo avec ses 7 enfants et Alexandre Poussin, là c'était Madagascar, en charrette à Zébu avec femme et enfants. Alors question, Cécile Toulonneau, est-ce que vous arrivez à mesurer les fruits voilà, de ces beaux voyages, de ces grandes aventures avec vos enfants, parce que maintenant ils sont grands?
Oui.
Ils ont plus 7 et 9 ans.
25 et 23.
Ah oui.
Vous voulez dire qu'est-ce que ça donne au niveau du choix
professionnel,
de carrière professionnelle
et puis même sur le moment et dans leurs années de croissance, qu'est-ce que ça leur a apporté?
On me pose souvent la question en conférence.
Et ben voilà.
Les gens aiment bien savoir.
Que sont-ils devenus?
Quand on est dans le vif de l'action, c'est un peu difficile à mesurer. Puis à la limite, nous. On est dans la tribunaux, comme ça qu'on se fait appeler partout. On laissait les choses venir, voilà. On a donné la possibilité de découvrir, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que les choix de vie qui sont voyage et qui sont nos choix de vie, comme disait Alexandre, qui sont nos choix de vie quotidiens, hein, matériels, concrètement, dans notre vie quotidienne, ça a sans doute orienté un petit peu, voilà. Si vous voulez savoir la profession de ma fille aujourd'hui, elle vient de signer son premier CDI. Elle a terminé son master en ingénierie, écologie, gestion de la biodiversité. Elle a une spécialité en chauve-souris. Donc, c'est ce qu'on avait dit en préparant l'émission. Ouais. Pourquoi? Parce que dans nos randos itinérantes, on avait un objectif. On était avec les jumelles, etc. Et on a toute la jeunesse de nos enfants. On a fait de l'observation animalière beaucoup. Donc... c'est pas un hasard. C'est une passionnée de bivouac, évidemment. De trek montagne, branchée montagne, enfin, tous les sports de montagne.
Mais forcément, oui.
Voilà, voilà.
Et votre fils?
Alors, Maïdik, il est en cours d'études. Il est en master 1, master 2 informatique intelligence artificielle. Mmh. Voilà, il est en cours. Et il se prépare vraisemblablement à partir à la rentrée de septembre, faire son doctorat en Australie 3 ans.
Ah oui, il y a quand même...
Voilà. Et ils ont déjà fait chacun un voyage, si c'était ça aussi, en autonomie, enfin seule. Annaëlle, elle a fait un premier stage dans une réserve en Guyane, à Cayenne. Et puis Maëlie avait déjà fait un premier stage dans un labo de recherche aux USA il y a 3 ans. Mmh. Alors, juste pour dire, forcément, arriver à ces âges-là, là où des familles mettraient le frein à des projets comme ça de jeunes, on est plutôt à les favoriser et voir, parce que là, ça c'est mon aspect, c'est plus moi qui est aux préparations dans la répartition du couple. Je donne évidemment avec grand plaisir des coups de main dans l'organisationnel.
Une petite voilà. expérience dont vous leur faites profiter.
Un peu.
Vous sentez que voilà, ces voyages, ces aventures, ça les a accompagnés tout au long de leur construction de jeunes adultes ?
Ouais, et puis maintenant c'est chouette parce qu'on en parle de ça.
Oui,
on
ils
en
arrivent
parle.
À analyser, quand ils avaient à digérer,
10 ans. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ouais.
Ils vous en disent quoi, par exemple ?
Il n'y a pas longtemps, notre fils qui est en Suède en ce moment nous a envoyé une carte pour nous remercier.
Ah ouais.
Voilà. Mais ça, il ne l'avait pas fait avant.
Disons, aussi.
Je suis là-bas pour le moment, je vis des choses extraordinaires, mais c'est la suite de ce qu'on a vécu la tribunaux.
Cinderella Lucal, et les fruits de ces aventures en famille, que ce soit le trek au Canada, dans le Grand Nord, que ce soit partir à Lourdes à vélo avec ses 7 enfants, ça en parle souvent, il y a des résidus dans votre quotidien.
Ça en parle souvent, oui. C'est quelque chose qui est fédérateur, qui est constructeur pour les enfants. Ça vient vraiment poser en eux des choses dont, à mon sens, on ne mesure pas encore tous les fruits. En revanche, ça donne des enfants qui sont autonomes, qui sont engagés, qui rêvent d'aventure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà mesurer. Notre grand envisage activement avec son petit frère de partir faire le 4L Trophy. Il souhaite partir faire le tour du monde à vélo. Je pense que je vais le mettre en lien avec Alexandre bientôt. ça donne des enfants qui s'ouvrent aussi aux autres. Il faut savoir que ces voyages, ce sont des moments de rencontres absolument inoubliables. Des rencontres qui sont vraies et sincères, qu'elles soient au bout du monde ou qu'elles soient sur une piste cyclable en France. On fait des rencontres sublimes qui nous invitent à l'ouverture. Ce n'est pas parce qu'on part en famille, je pense que mes deux confrères sur le plateau le confirmeront aussi, ce n'est pas parce que nous partons en famille que nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Mmh. Au contraire, nous resserrons nos liens familiaux pour mieux nous ouvrir aux autres. C'est ce qui, nous, derrière, nous a permis de nous ouvrir à l'accueil de Julia.
Redites-nous en quelques mots.
Julia, cette petite fille qui était placée depuis toute petite, hein, à l'aide sociale à l'enfance que nous avons recueillie et qui nous a été confiée en septembre dernier. Nous avons agrandi notre famille en l'accueillant entièrement avec son bagage, qui n'est pas qu'un bagage d'amour et de vie facile, bien au contraire. Voilà. Et Julia elle-même, l'été dernier, en arrivant dans notre maison, nous a demandé à partir à l'aventure. Elle a elle-même identifié, elle qui s'est construite qui a essayé de se construire avec finalement très peu dans sa vie, a identifié que ses voyages étaient une ressource immense pour notre famille et nous a demandé l'été dernier à partir en voyage. Nous sommes partis, alors c'était un petit voyage, hein, 300 km, 4 jours. Avec à 11, mais c'était, ça a été pour elle.
Ça a l'air simple quand on écoute comme ça.
ça a été extraordinaire. Ça nous a permis, nous, un voyage intérieur qui nous a permis, avec Nicolas, mon mari, de nous dire ok, ouais, on est prêt. Ce voyage intérieur nous a permis de nous dire ok, on est prêt à engager les démarches pour accueillir Julia. C'est ce qu'elle veut. Elle veut vivre avec nous.
Pour l'adopter.
Alors nous ne sommes pas adoptants. Ouais. Nous portons pour elle la fonction parentale. Nous sommes tiers dignes de confiance. Pour elle, elle vit chez nous. Elle vit avec nous. Elle vit en nous. Voilà. Et nous envisageons de partir du coup à 11 pour 1000 km cet été.
Mais on vous réinvitera pour savoir les fruits aussi, notamment auprès de Julia. Cécile Toulon, nous voulait réagir.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. On n'a pas parlé de quelque chose, et je pense qu'Alexandre ira dans mon sens. Les amitiés sans frontières. J'ai un chapitre de mon premier livre qui a ce titre-là. Nous, en haut de l'échelle de ce que nos enfants rapportent aujourd'hui, c'est les superbes belles amitiés qu'on a nouées avec les gens avec lesquels on a vécu.
Les rencontres.
3 mois dans un village en Équateur à 3500 mètres d'altitude, c'est pas n'importe quoi. un mois dans un village de Népalais tibétain à 2500 mètres d'altitude en vallée du Soulkumbu, c'est pas n'importe quoi. Un mois avec des maraîchers dans la steppe mongole non plus. Et ça, c'est une valeur, alors qu'on rencontre des gens en France, au Canada, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Et mes enfants seraient à côté de moi, ils le diraient.
Voilà, ils sont encore pétris de ça. Alexandre Poussin, ouais, on voyage pas que pour les beaux paysages?
Ah ben non, c'est les beaux paysages, la carte postale, elle passe très vite. Hein, quand on la arpente, bon, c'est beau le paysage, mais c'est souvent monotone et répétitif. On se concentre sur les souvenirs des gens qui nous ont accueillis la veille, de ce que l'on porte, des inquiétudes de savoir où l'on va. L'aventure, c'est ne pas savoir, c'est surtout ne pas prévoir. Si vous suivez un roadbook, vous êtes toujours frustré parce que vous n'êtes jamais au bon endroit ni au bon moment, vous êtes toujours en retard. Donc non, il faut laisser venir à soi les choses et se mettre dans l'état de disponibilité pour les accueillir. Donc c'est vraiment ça qu'on aime, c'est être pleinement vivant. S'en priver, c'est dommage. C'est passer à côté d'une partie essentielle de la vie qui est justement se mettre à l'écoute de la providence, de ce qui va arriver, de l'aventure, de l'autre, lui donner le pouvoir de vous aider. Si vous avez besoin de tout, comment voulez-vous créer des liens avec les gens? Donc il y a cette fragilité volontaire qui est extraordinaire, parce que comme ça, lâché dans la rue, en dehors de chez soi, on a très vite faim, soif, et on est tout de suite inquiet, où est-ce qu'on va dormir? Donc, c'est une expérience de l'humilité qui est extraordinaire à faire chez soi. Moi, je l'ai apprise au scoutisme, alors j'essaie de le revivre au quotidien avec ma famille, même si j'ai aussi une maison et de la sécurité. J'aime beaucoup quitter ça pour retrouver cet état d'esprit de l'aventurier, du nomade, et nos enfants deviennent nos ambassadeurs. Là, j'imagine, il y a un grand précédent dans le voyage français, c'est la famille Malusier, ils ont eu 9 enfants, et ils voyageaient à 11 aussi, et je suis enchanté que cette tradition se perpétue grâce à Cinderella et sa grande tribu, et ce sont des gens qui ont initié le voyage et la conférence autour du monde, avec connaissance du monde. Ce sont nos maîtres à tous, les Malusier, entre les deux guerres ou après-guerre, ils ont fait des conférences partout sur Terre, c'était extraordinaire. Donc voilà, les auditeurs qui nous écoutent, assouvissez ce rêve, faites-le, partez, commencez, partez de chez vous avec votre bicyclette et allez le plus loin que vous n'êtes jamais allé. Ça sera peut-être 15 km, 20 km, et vous verrez que ça sera déjà une aventure. Découvrir une route, une piste que vous n'avez jamais arpentée à bicyclette. Et puis, voilà, vous allez découvrir des choses en chemin, vous allez parler à des gens en chemin, vous allez voir des choses que vous n'auriez pas vues en voiture, et ça va devenir une petite aventure. Et alors après, le terrain de jeu est immense, on peut tout faire, descendre la Loire, la Seine, en canoë, en raft, aller grimper, dormir dans les arbres. Quand j'étais petit, j'allais dormir, mettre un hamac dans le bois derrière chez moi, c'était une extraordinaire aventure. Je grimpais au sommet de l'arbre, je mettais le hamac, j'avais un sandwich, et les chouettes venaient me voir pendant la nuit. L'aventure, c'est simple.
Alexandre Poussin, donc sur nos ondes, pour parler du voyage en famille. Qu'en est-il du couple dans tout cela aussi? Un mot là-dessus, ça, c'est comme des cailloux qui se frottent un petit peu, mais qu'est-ce qui en ressort, Cinderella Lucas? Un huitième enfant.
Nous sommes à 9, Marie, quasiment. le couple, nous sommes radicalement différents. Hommes et femmes que nous sommes déjà, avec notre sensibilité différente, nos fragilités et nos forces différentes. Ce qui m'émerveille toujours, c'est notre capacité à nous compléter.
Vous avez un exemple sur une anecdote
sur je reprendrai sur ce que disait Cécile tout à l'heure en disant finalement. Au moment où moi je peux avoir un coup de mou, Nicolas aura l'énergie suffisante pour soutenir, pour rebooster les enfants ou moi, hein, ou pour percevoir la petite chose que j'ai pas perçue. Voilà. Enfin, c'est après il y a aussi dans les couples des moments qui sont toujours très comiques. Hein. Je pense que nos enfants parleront très facilement de savoir s'il faut prendre la rive gauche ou la rive droite à Saumur. Il y avait la rive de papa et la rive de maman. Le mystère reste entier à ce jour encore.
Affaire à suivre. Cécile Toulonneau, en couple, c'est si évident que ça de partir, prendre la route sur des chemins escarpés, en autonomie, seule avec ses enfants. Comment survit le couple à cela?
Il survit très bien. Non,
tant mieux.
Pour cet aspect un peu trek, nous, en fait, c'est pas un hasard si on a fait du trek à l'étranger, c'est parce qu'on fait déjà beaucoup de randonnées itinérantes dans les massifs montagneux de France. Donc, on a fait au fin fond de la Mongolie la même chose qu'on fait dans les Alpes ou les Pyrénées. On s'est juste adapté.
Voilà. Pareil, ça paraît simple hein, quand on entend. Ouais.
Non,
ça renforce le couple.
Oui, bien sûr. Et il y a des moments sympathiques et des moments moins sympathiques. Mais comme je disais tout à l'heure, dans les tribus en France, c'est exactement la même chose. C'est juste un peu exacerbé par des conditions de confort, etc. Ou du sommeil qu'on a moins, etc. À l'étranger. Mais pour nous, ça change pas systématiquement beaucoup, beaucoup de choses.
Alexandre Poussin, vous portez un regard différent sur votre femme après cette grande aventure d'être partie à Madagascar, donc avec vos deux enfants.
Je l'aime un peu plus à chaque pas. C'est marcher ensemble, c'est la meilleure des thérapies de couple. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait prescrire à tous ceux qui ont un problème de communication dans leur couple. Ce qui tue l'amour et ce qui tue le couple, c'est notre vie en société sédentaire où chacun part travailler de son côté et va se confier de son conjoint au boulot avec les autres. Et puis un jour, il tombe sur une jolie femme, plus jeune, qui a pas de problème, elle apparemment, et elle peut tomber sur un monsieur qui va se confier le même problème, et puis ça crée des divorces à la chaîne. L'amour se renforce en marchant. Qu'est-ce qu'on fait quand on marche avec son conjoint? On ne fait que parler. Et on peut mettre 200 mètres de temps en temps entre nous, mais sinon on se reparle, on se parle, on se parle. Ce qui tue les couples aujourd'hui, c'est le manque de communication. Et là, la communication, elle est totale, elle est physique, elle est intellectuelle, on rentre en harmonie, en communion avec les éléments. On échange, on a des points de vue différents, on ne fait que parler. Et donc voilà, moi depuis 20 ans, on a fêté 21 ans de mariage, j'aime ma femme de plus en plus. À voyager au long cours avec elle. C'est en France que c'est un peu plus difficile avec le stress, toutes les choses à gérer, les conflits d'intérêts avec les enfants à droite, à gauche, la vie de fou qu'on mène ici, quoi, voilà.
Mais presque sur la route, c'est presque plus facile.
Bah oui, c'est plus simple sur la route.
On marque une dernière pause sur RCF Anjou. On va approcher de la conclusion et on va recueillir, et prenez bien un papier crayon, les conseils très pratiques de nos invités sur les indispensables pour partir en voyage en famille.
L'écologie, on peut aussi en parler de façon positive. Dans Comme une planète, Bernadette Humeau donne la parole à des acteurs locaux qui agissent concrètement pour préserver notre maison commune. Comme une planète, c'est chaque lundi à 19h15 sur RCF Anjou.
Avec la crise du Covid-19, vivre à plusieurs peut devenir problématique dans de petits espaces où il faut cohabiter à longueur de journée, télétravailler et suivre des cours. À l'inverse, beaucoup de personnes sont encore plus que d'habitude réduites à la solitude. C'est dans ce contexte que des personnes qui vivent dans des colocations solidaires apportent leur témoignage et leur vision de la vie ensemble dans Vous avez dit fragile. Nous irons à la rencontre de colocataires des associations Lazare et Marthe et Marie à Lyon. Et en seconde partie d'émission, vous pourrez réagir à leurs témoignages et partager vos expériences. Rendez-vous ce mardi à 21h.
11h, 12h, c'est le mag de Maria Goyer sur RCF Anjou.
Et nous sommes en excellente compagnie sur RCF Anjou. Des aventuriers sont avec nous en plateau pour témoigner et nous donner des conseils pratiques pour prendre la route en famille. Cinderella, Lucas, c'est pas une question piège, hein, promis, mais je sais pas, la préparation d'un road trip à vélo en France, faut tout préparer à fond, les rustines, les pansements, les chaussures propres.
Surtout pas, Marie. Vous ne pouvez pas tout prévoir. L'aventure, c'est justement, Alexandre le disait très bien, c'est justement se laisser toucher par ce qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Donc non, et puis avec 9 enfants, c'est impossible de tout prévoir. On part avec le minimum syndical, de slip, de chaussettes, j'entends Alexandre qui rigole, de slip, de chaussettes et pas plus, et c'est lavé et ça sèche sur les vélos le lendemain. Les deux éléments que j'ai envie de partager aux auditeurs, qui sont pour nous essentiels, et mon mari Nicolas, je pense, serait d'accord avec ça. La première chose à emmener, c'est la confiance. La confiance en soi, la confiance en ses enfants, la confiance dans la vie, la confiance dans le monde. Et puis, le petit truc un petit peu plus pratico-pratique, je dirais que c'est l'eau. L'eau, parce que c'est la base de la vie. L'eau, on peut toujours en trouver, notamment dans les cimetières. C'est ce que nous ont appris les les routes que nous avons rencontrées, voilà, les cyclistes, toutes les belles rencontres que nous avons faites. Un jour, nous étions en manque d'eau et c'est peut-être un des jours qui nous a le plus inquiétés pour nos enfants. Nous étions en manque d'eau, pas que nous en avions pas prévu, mais juste que nous étions dans une zone sans habitation, dans des marais, en plein soleil. Et l'eau, c'est ce qui nous a paru le plus précieux à ce moment-là. L'eau, on la trouve ouais, dans les cimetières. On a toujours de l'eau potable dans les cimetières. C'est the place to be quand vous êtes en été, en vélo ou bien à marcher.
Merci pour ces bons conseils. Vous voyez, la confiance et de l'eau qu'on peut trouver dans les cimetières. Merci Cinderella. Je me tourne vers vous, Cécile Toulonneau. Voilà, il faut tout prévoir. Alors là, en plus, une dimension de totale autonomie sur les routes, les sentiers, les pistes de Patagonie, par exemple.
Alors pour les treks, comme je disais, ouais. On fait la même chose en trek à l'étranger qu'ici. On a le même matériel, etc. Après, on n'a pas la même nourriture. Voilà, on achète ce qu'on peut à l'étranger. Ça, c'est un des aspects de nos périples. Pour l'autre aspect qui est l'immersion, moi, je dirais rester ouvert à l'autre. Voilà, c'est ça. Si j'ai un conseil.
Un indispensable, c'est l'ouverture.
Ouais. Et puis, en ce qui concerne le voyage en famille, réellement, faire confiance à nos enfants. Souvent, en conférence, les gens me disent « Mais vous êtes complètement fous de les avoir emmenés. » Mais un enfant, il s'adapte aussi bien, voire mieux qu'un adulte dans ces contrées-là.
Il a moins de freins que
nous. Les contrées qu'a expliqué Madagascar, je me retrouve très bien dans ce que disait Alexandre tout à l'heure, fin fond de la Mongolie, du Népal, etc., les enfants, ils s'adaptent. Alors peut-être que nos enfants, là, nos trois tribus, on les a un peu baignés là-dedans.
Conditionnés un petit peu.
Moi, bon. Je me rappelle très bien nos enfants petits, ce qu'ils regardaient, on n'a toujours pas la télé, on ne l'a jamais eu. Ben, c'était nos diaporamas qu'on avait effectués, Gilles et moi, voilà, fin fond de la Turquie, fin fond du Mali, voilà. Ils sont un peu trempés là-dedans tout petits. Mais voilà, j'ai pas plus de conseils pratiques que ça, faire confiance. Et puis, je pense que mes deux collègues diront la même chose. Pas forcément écouter l'environnement qui va vous dire que vous êtes des fous de déscolariser nos enfants, n'est-ce pas Alexandre? Que c'est inconcevable de déscolariser ses enfants et puis on n'attrape pas plus de maladies ailleurs que... qu'ici.
Voilà, faire fi de la pression sociale.
Voilà, exactement.
Le mot de la fin avec vous, Alexandre Poussin. Qu'est-ce qu'on emmène dans ses valises, dans son sac et dans son cœur quand on part à l'autre bout du monde avec ses enfants, prendre la route en famille?
On emmène de la privation, du vide. On parlait de... J'ai théorisé la chose. C'est deux slips, deux paires de chaussettes et ça sèche sur le dos quand on marche. C'est aussi simple que ça. On a fait 14 000 km avec 7 kilos sur le dos. Alors évidemment, l'eau devient un problème, il faut en chercher, mais si vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'hommes, donc vous créez la rencontre, vous la rendez indispensable. Si vous avez 25 kilos sur le dos, ben vous mangez vos boîtes de conserve et vous êtes crevé, vous faites 15 kilomètres dans la journée. Si vous avez 7 kilos sur le dos, vous faites 25, 30, 35 kilomètres dans la journée, vous êtes tellement léger que vous vous donnez la chance et l'obligation de rencontrer quelqu'un. Et partout où il y a des humains, ben, il y a de l'eau. Et donc, d'homme en homme, on va d'eau en eau, comme ça. Alors, à Madagascar, c'était différent. On avait la charrette, on avait tout team, on avait 80 litres d'autonomie d'eau, on avait les ébus à nourrir, on avait du matériel. On ne voulait absolument pas dépendre des populations qui étaient beaucoup plus très pauvres quoi, et très démunies. Et donc, on avait tout ce qu'il fallait. On était vraiment là en autonomie. Et donc, on vivait de l'air du temps. Alors, pour les petits détails de ce qu'il faut emporter, c'est le kit de survie, c'est les bouchons d'oreilles. Ça, c'est très important. Il faut pouvoir dormir parce que la nuit, les coqs sont déréglés, les chiens aboient, votre voisin ronfle. Voilà. Le bouchon d'oreille, c'est très important. Après, il y a la toilette intime parce qu'à 11 dans une tente, si ça pique les pieds et les aisselles, ça devient tout de suite le cauchemar.
Ah, mais s'en fiche, Cinderella.
Le déo, c'est important. Après, non, les chaussettes en laine, moi, c'est ce que je préconise parce que justement, ça sent moins fort et ça se lave mieux. Alors, les slips en coton, en revanche. Un chapeau, ça remplace toutes les crèmes. Ça sert à rien de se mettre de la crème sur le visage parce que ça va ruisseler dans les yeux avec la poussière et la sueur et ça va créer des conjonctivites. Le chapeau, c'est la meilleure protection solaire. Le couteau suisse, évidemment, incontournable, et une lampe frontale parce que la nuit, il faut que tout le monde ait sa lampe frontale, sinon c'est le bins. Donc voilà, l'important c'est d'être léger et d'être lourd surtout de ce que l'on veut apporter, de ce que l'on veut donner, de ce que l'on veut comprendre du monde et de faire du déplacement de soi quelque chose qui a du sens et pas simplement un divertissement. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'aventure, c'est la vie pleine et la pleine vie. Et se sentir vivant comme ça, ça rayonne et les gens sont contents, ils vous invitent, vous partagez des choses incroyables et vous disent merci. Non, n'inversez pas les rôles, c'est nous qui vous disons merci. Non, non, merci d'être passé, merci de nous avoir montré que c'était possible, qu'on pouvait être heureux. Et ce que je considérais comme un risque, finalement, c'est pas un risque, c'est une chance et je vais faire comme vous.
Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Alexandre Poussin. Vos actus sur le site www.amadatrek.com. Merci Cécile Toulonneau, toutes vos actus et conférences sur à l'écoledesandes.com et aussi tous vos bouquins. Et il y a un site internet
www.céciletoulonneau.com.
Tout simplement. Et merci Cinderella Lucas. On vous réinvitera dans quelques semaines pour parler de votre bouquin. En tout cas, on peut vous suivre en attendant sur Facebook. Ça s'appelle 7 nains à vélo.